Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h05, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme sur RMC. Enfin, voilà, spéciale Coupe du Monde, bien sûr, en direct de Doha, enfin. Et c'est Roten sans flamme, parce qu'on reprend une émission classique. Ça, elle m'a manqué, et je suis sûr que vous aussi, les auditeurs, on vous a manqué. Mais on est autour de la table, comme d'habitude, je suis pas tout seul, il y a du beau monde, du très beau monde, à commencer par mon pilier. C'est Jean-Louis Tour, salut Jean-Louis.
Salut Jérôme.
Et quel pilier, je peux vous dire que là, il est en forme.
C'est comme si tu retrouvais ton bébé, là, ouais, avec le vrai Roten sans flamme.
Exactement. Ouais. Mamadou Nyang avec nous, Mamad.
Salut Jean-Louis.
Salut Mamad.
Ça va,
Mamad?
Ouais, bah écoute, ça peut que aller. Et toi, je sais que ça va très bien. On va en reparler.
Ne pose même Sénégal, pas la question. Qualifié. Tu connais déjà la réponse.
Et, exactement. Et puis Mamad, on a de la chance parce qu'on a notre maître à tous. C'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
You, Captain.
Il arrive. Attendez que Captain je mette le micro. Oui.
Oui.
Bonsoir messieurs.
Bonjour.
Pardon. C'est une faute de jeunesse. Pardon.
T'as souvent un problème avec ton micro. Hein. Depuis quelques années.
On prend les mêmes blagues donc de vrai Roten sans flamme. Hein,
bah, c'est ce que a souvent dit Régine.
Hein. D'accord, très bien, les problèmes de micro de Jean-Michel. Roten sans flamme, donc il reprend ses habitudes même pendant la Coupe du Monde. Désormais, tous les soirs de 18h à 20h, vos rendez-vous sont de retour. À 18h30, on fait entrer l'accusé. L'accusé du soir, c'est toi, Jérôme.
Ah bon?
Oui, tu es accusé d'aller trop loin sur Antoine Griezmann, avec tes reproches, avec tes attentes autour de lui. 32-16, bien sûr.
C'est étonnant, mais qui va
m'attaquer? Tu fais très bien, c'est Jean-Michel. Appelez-nous pour participer. À 19h, dans Roten s'engage, on se demandera si l'ambiance, bah est-ce que finalement c'est pas l'ingrédient le plus important dans un mondial pour aller loin, plus encore que la technique, la tactique, etc. À l'image des Français chez qui tout va bien et des Belges qui n'arrêtent pas de se disputer, on vous raconte tout ça tout à l'heure. Et puis Julien Cazard reprend sa place habituelle, 18h45, pour le Cazard enchaîné. Tout de suite, messieurs, l'artiste Mbappé.
J'aurais voulu être un artiste. Le centre, la tête, le but de la tête de Mbappé avec le poteau rentrant, ça fait 3 buts à 1.
Pouvoir faire mon numéro.
Moi, tu me parles pas d'âge. Quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau.
Kylian, c'est un joueur hors norme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois.
Quand l'avion se pose sur la piste.
Ça, c'est un discours pour consoler.
Il s'est fixé cet objectif de la Coupe du Monde et l'équipe de France a et aura besoin d'un très bon Kylian.
Alors messieurs, on est à la veille de France-Tunisie demain, 16h sur RMC, le troisième match de poule des Bleus à la Coupe du Monde. La France déjà qualifiée, la France quasiment sûre de finir première de son groupe. Hier, on s'est demandé s'il fallait préserver Mbappé malgré son envie de faire tourner les stats. Eh bien, la question a été posée à Didier Deschamps aujourd'hui. Loïc Braillet nous rejoint de nouveau. Loïc était sur place. Rebonsoir Loïc.
Rebonsoir messieurs.
Salut Loïc.
Alors, raconte-nous ce qui s'est dit sur ce dossier.
Bah, c'est vrai qu'on voulait titiller un petit peu Didier Deschamps par rapport à ses futurs choix pour sa compo de demain. Et c'est vrai que le cas Mbappé était un petit peu sur toutes les lèvres parce qu'il est hyper décisif depuis le début de la compétition. Il est très en forme et on se dit, est-ce que c'est pas le moment juste de le faire un petit peu souffler pour le retrouver en huitième de finale? On a regardé un peu les stats tout à l'heure. Il est à 24 matchs, toutes compétitions confondues, de jouer depuis le début de la saison. Donc que ce soit des matchs internationaux ou des matchs en club. Et du coup, un de mes confrères en conférence de presse lui a demandé, Didier, est-ce qu'il vaut mieux pas préserver son physique ou préserver son ego? Écoutez la réponse du sélectionneur.
Apparemment, le problème, ça serait son ego, puisque son ego voudrait qu'il joue. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce qu'il veut jouer? Ah, vous le savez pas, moi je le sais. Donc. Kylian n'a pas d'ego. Enfin, pas d'ego. Évidemment qu'il est important, il est décisif, mais je peux vous assurer qu'il s'est toujours inscrit dans un cadre collectif, avec cette capacité, de par ce qu'il fait, d'être forcément mis en lumière parce qu'il est décisif. Mais il a plus 18 ans, il a de l'expérience aussi, qu'il a envie de jouer. Les 24 joueurs ont envie de jouer le match de demain. mais ils le commenceront pas tous.
Bon, la tendance, c'est quand même à ce que lui, a priori, le commence. On verra le temps de jeu qu'il aura, mais la toute dernière tendance, je vous rappelle que l'entraînement à huis clos de ce soir n'a pas donné grand-chose. Hein. Didier Deschamps a un petit peu brouillé les pistes, donc il n'y a pas un 11 clair qui se dégage. Mais a priori, devant, en tout cas, la titularisation au niveau des cadres, ce sera plutôt pour Mbappé, au détriment d'un Chiche, par exemple, qui lui devrait plutôt débuter sur le banc. Reste à savoir combien de temps il jouera demain contre la Tunisie.
Merci Loïc. Alors Jérôme, comment il faut comprendre le Mbappé n'a pas d'ego? Est-ce qu'il faut croire Didier Deschamps quand il dit ça? Ou est-ce que c'est un peu de la com?
Après attention, je pense que là on l'analyse en disant il n'a pas d'ego, donc c'est un joueur comme un autre. Automatiquement Kylian Mbappé, avec tout ce qu'il représente aujourd'hui, bien sûr qu'il a un ego supérieur à la moyenne. Moi j'emploie souvent sur ce genre de joueur un ego surdimensionné. Alors attention, surdimensionné, ça ne veut pas être forcément une critique, mais c'est un ego qui est particulier, donc il faut le gérer particulièrement dans un groupe, différemment de la plupart des autres. Et Didier Deschamps le sait très bien que ce joueur-là, tu le gères pas comme un autre, comme un joueur lambda. Donc, je pense qu'il l'a dit d'une façon où on a entendu plein de, et moi je l'ai défendu au début de la compétition quand il tirait les corners. Rappelle-toi ce qu'on a dit, ou les coups francs excentrés. Mmh. Bien sûr que c'est pas le meilleur sur cette
exercice-là.
Mais n'empêche que si tu veux des corners rentrants ou des coups francs rentrants, t'es obligé de faire tirer un droitier. Et trouve-moi un droitier aujourd'hui qui est plus performant que Kylian Mbappé. Bah, j'en ai pas. Autant Antoine Griezmann, il n'y a pas de problème qu'il les tire rentrant-sortant. Il est bien meilleur que n'importe quel autre joueur de l'équipe de France. Après, derrière, donc, il y a cette solution Mbappé. Et tout le monde a dit oui, mais il le fait pour les stats, il le fait pour faire tourner le compteur, pour faire un, parce que, non, et je pense que la phrase de Didier Deschamps, elle répond à ça, en fait. Voilà, arrêtez de penser que Kylian Mbappé, il est là pour juste faire tourner le compteur, que le compteur passe décisif au but tourne. Même si l'équipe de France, elle perd, c'est pas grave. Lui, l'essentiel, c'est qu'il marque des buts. Et Didier Deschamps, tu réponds que non. Il est tourné vers le collectif. Et ben moi, ça me fait plaisir de l'entendre comme ça. Parce que, en effet, Kylian, il peut pas se défendre tout seul. Déjà, il a pas envie de parler. Aujourd'hui, tu le vois, hein, même quand tu sors des matchs, il dit bonjour, il a le sourire, mais il a pas envie d'arrêter. Il a pas envie de répondre à certaines polémiques parce qu'il sait très bien qu'on va lui poser la question sur le rôle qu'il a aujourd'hui en équipe de France, sur le rôle qu'il doit avoir en tête du classement des buteurs, s'il a envie de ça, le départ de Benzema, tout ça. En fait, il met ça de côté. Il reste dans sa bulle. Et pour de bon, il est bien dans sa bulle aujourd'hui. Parce qu'on a besoin d'avoir un Kylian Mbappé comme ça. Et pour en revenir au problème d'ego, ça c'est la réponse de Didier Deschamps, et moi je la comprends comme ça. Après, il a un ego qui est forcément, qui lui permet aujourd'hui d'être dans les meilleurs joueurs du monde, et qui lui permet de choisir, lui, alors en accord avec le sélectionneur bien sûr, parce que c'est pas lui qui fait l'équipe, de savoir s'il doit jouer le match de la Tunisie ou s'il doit pas le jouer. Et quand il dit aussi, Didier Deschamps, j'ai 24 joueurs qui veulent jouer, oui, mais alors va nous expliquer pourquoi tu en fais tourner certains et pourquoi Kylian va être sur le terrain demain.
Eh oui.
Donc c'est bien que Kylian, il a qu'une envie, c'est qu'il soit en forme sur les matchs qui comptent, le match de dimanche, et qu'il a envie d'être en pleine forme, et que le meilleur moyen, Kylian y pense qu'aujourd'hui, vu qu'il récupère bien et qu'il n'est pas fatigué, le meilleur moyen pour être en forme dimanche en huitième de finale de Coupe du Monde, c'est de jouer demain, ne serait-ce qu'une heure ou une heure et quart.
Bien sûr. Alors, Captain, il n'a pas d'ego, Mbappé?
Non mais déjà la question est tendancieuse, parce que l'ego de quelqu'un, c'est quoi? C'est la connaissance de soi, c'est quoi? Ou c'est être avoir de l'ego, c'est être égoïste, égocentrique? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire à partir du moment où tu poses cette question? Ça veut dire que Mbappé aurait choisi un sport collectif qu'en pensant à sa gueule.
Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ce que certains disent, hein.
C'est oui, non, mais c'est pas possible que Mbappé ait envie de jouer ce match, et que ceux qui ont envie de jouer ce match aient un ego surdimensionné ou pas. Mais ça me semble normal, tout le monde a envie de jouer ce match, mais c'est bien sûr avec les risques que cela comporte, avec les atouts que cela comporte, mais tout le monde a envie. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un ego où ils sont sûrs d'eux, et puis il y a des gens qui ont un ego où ils sont complexés. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et quand j'entends la question, pour moi, c'est son ego, c'est sa fierté, son amour propre. Voilà, est-ce que ça flatterait son amour propre que de jouer? Mais vous pensez que c'est ça? Ça flatterait l'amour propre de... Non, je pense que tout simplement, Mbappé a envie de jouer ce match. Peut-être pour marquer des buts, peut-être pour entrer dans l'histoire, peut-être pour se rapprocher de records, peut-être, oui, mais c'est le rôle d'un champion. Enfin, je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel à ce qu'un joueur comme Mbappé ou un autre, je rajoute, hein, ou un autre, ait envie de jouer ce match.
Enfin, comment tu comprends la réponse de Didier Deschamps à ça quand il dit Mbappé, il a pas d'ego?
Mais non, il a pas d'ego. Il n'est pas égoïste, il n'est pas égocentrique, il ne pense pas qu'à sa pomme, il pense à lui et il pense autant à lui, autant aux autres qu'à lui. Moi, je pense quand il dit qu'il n'a pas d'égo, ça veut dire que ce n'est pas un égoïste.
Ouais, c'est ça.
Ça veut dire qu'il ne met pas le collectif en péril.
Exactement.
C'est la réponse, parce que la question est tendancieuse. La question est... Pourquoi? Qu'est-ce qui vient faire l'ego de Mbappé dans le fait d'avoir envie de jouer là? Qu'est-ce que ça vient faire? Dites-moi.
Parce que c'est pour faire tourner les statistiques, pour essayer de devenir meilleur buteur, alors que l'objectif de l'équipe de France est d'aller au bout, pas que Mbappé soit meilleur buteur.
Mais Jean-Louis, si tu joues pas.
C'est pour comprendre la question, moi.
Oui. Si tu joues pas, tu vas pas aller faire tourner les statistiques, hein, ça c'est sûr, hein. Ça c'est certain.
Non mais de toute façon, Jean-Michel, quand Didier te répond ça, c'est vraiment...
Au départ, la question, elle est pipée. Didier comprend ça comme étant l'égoïsme ou l'égocentrisme de Mbappé.
Problématique voilà. Pour son groupe, on est d'accord. Mais après, exactement. Que derrière, il s'explique différemment, où il aurait pu rebondir en disant « Mais de toute façon, tous les grands champions ont un égo surdimensionné. » Mais c'est pas problématique.
C'est même plus une question d'égo. C'est quelqu'un qui a envie de jouer. Il aime le football. Il est comme ça. C'est un gamin. Et tu es bien placé pour savoir. Toi, quand tu étais joueur, ou moi, pareil, on voulait jouer tous les matchs. On était là à calculer.
Mamad, on avait de l'ego.
Attends, Jean-Michel. Jérôme.
Mamad, tu avais de l'ego aussi.
Oui.
Non, après, ça, la question, comme l'a dit Jean-Michel, elle est tendancieuse. Tu veux dire quoi par ego?
Mais ego, pour moi, ego.
Parce que dans le sens où il tourne la question, ça veut dire qu'il est égoïste, qu'il veut être égoïste, qu'il veut jouer pour gonfler ses stats, pour gonfler ses passes décisives.
Moi, je le comprends, Mamad.
Bon, Jean-Michel.
Vas-y, Jean-Michel.
Les gars, quand je fais les. Et je sais si j'ai le temps, quand je fais les mots croisés, quand on me met moi dans la définition, c'est ego. Donc, ego, c'est moi. Moi, avec un grand M. C'est-à-dire, ma pomme, c'est moi. Moi, je suis le centre du monde, je suis le nombril du monde.
C'est pas que ça non plus.
Mais c'est ça. Mais dans la question, elle est posée dans ce sens-là.
Non, la question.
Elle est posée
pour dire est-ce que Mbappé, qui veut faire tourner ses stats, qui veut être celui qui. Redonne-moi la question. Est-ce que cette volonté-là va pas à l'encontre des intérêts collectifs, sous-entendu. Si Mbappé se blesse sur ce match-là, est-ce qu'après on va pas être pénalisé pour le reste de la Coupe du Monde?
Il n'y a pas de tout ça. Juste parce qu'il aura eu envie de faire tourner son compteur. Est-ce que le fait de les laisser sur la touche, ça va peut-être pas le vexer parce qu'il a un moi au-dessus des autres. Voilà. Est-ce qu'il va bénéficier d'un régime particulier parce qu'il a un moi au-dessus des autres?
Loïc, vas-y. Loïc.
La question, je vais vous la reposer. C'est un de nos confrères de l'équipe qui l'a posée. Elle était très courte. En plus, vu qu'il y a pas mal de questions qui se posent sur la gestion physique des cadres, question sur le cadre, on va le considérer comme un cadre, hein, Mbappé évidemment. Est-ce que c'est mieux, selon toi, de préserver le physique, donc le corps de Mbappé, ou son ego, sous-entendu que pour préserver son ego, il faut le faire jouer parce que lui veut jouer, il veut marquer, veut absolument aller chercher les records, veut marquer de son empreinte cette Coupe du Monde. Mais effectivement, il y a un physique à gérer, il n'y a pas d'enjeu comptable sur ce match-là. Si jamais il y a pépin physique avec toi, on va y avoir des conséquences pour les huitièmes de finale. Oui, c'était ça la question en fait.
D'accord, mais ça, de toute façon, pour moi, la question, elle est déjà orientée. Et ça, Jean-Michel et Mamad ont raison. Elle est orientée.
Ça,
parce
je veux
que
bien t'admettre.
Vous avez, et je dis vous, c'est pas du tout péjoratif, hein, Loïc. Hein, je parle les médias qui ont la chance d'être en conf de presse et face à Didier Deschamps à lui poser des questions. Automatiquement, vous avez dans la tête le fait que Kylian Mbappé, et il y en a beaucoup qui pensent comme ça, pense qu'à sa tronche. Donc, automatiquement, la question sur Didier Deschamps, elle est voilà, vu qu'il pense qu'à sa tronche et qu'il veut pas des records, au détriment même du collectif et au détriment des résultats, parce que c'est ce que j'ai entendu sur lui. Mais ça, c'est les grands champions, les gars. Les grands champions, ils veulent battre des records. Mais on fait un sport collectif. On fait un sport collectif. Et le but de Kylian Mbappé, je peux vous l'assurer, alors je suis pas dans sa tête, je suis pas là en train de dire que je suis le représentant, le porte-parole de Kylian Mbappé. Mais je suis persuadé que Kylian, il a qu'une envie, c'est déjà de gagner, de regagner la Coupe du Monde. Après, à côté de ça, on va pas se voiler la face. Si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde demain, et je le souhaite, mais c'est forcément parce que Kylian Mbappé, il aura mis beaucoup de buts et qu'il aura été performant, parce que c'est notre meilleur joueur offensif. Donc automatiquement, Didier Deschamps, il doit faire en fonction de ça. Et en fonction de ça, comment il sait s'il va jouer demain ou pas, pour laisser reposer ou pas laisser reposer, c'est qu'il y a un échange, une confiance qui doit être réciproque encore entre le joueur Kylian Mbappé et le sélectionneur Didier Deschamps, et que là, ils prennent une décision en commun.
Ok, bon, donc il n'y a pas d'histoire.
Mais non, non, parce que moi j'en ai marre d'entendre une chose, c'est qu'il pense qu'à sa tronche.
C'est extraordinaire de faire, d'avoir d'imaginer un problème et d'imaginer que Didier Deschamps, on le connaît très bien. Évidemment, Didier Deschamps, il va faire un cas particulier. Il va avoir Mbappé va avoir un régime particulier par rapport au capitaine Lloris, qui lui ne va pas jouer et qui est content de ne pas jouer. Et Mbappé serait lui. Enfin, c'est pas possible, les gars.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de strap au pied, Loïc, pour Mbappé?
Alors, je vais tout. On va calmer tout le monde parce qu'effectivement, ça commence à partir dans tous les sens sur certains réseaux. Au tout début de la séance, Mbappé a changé de chaussure. Juste avant de commencer vraiment la séance, il a baissé sa chaussette et effectivement, il y avait un strap sur sa cheville gauche. Bon, il a remonté sa chaussette, il a changé sa paire de chaussures et il a fait la séance normalement. Point final. On n'a pas d'autres infos, on a juste sondé le staff. On a sondé le staff au cas où. Le staff nous dit que tout va bien, il n'y a pas de souci avec Mbappé. Mais ouais, comme c'est certains collègues qui ont commencé à en parler, je rassure tout le monde, je vous rassure. Y a pas de
pourquoi
souci.
Il a changé de chaussure? Il n'y a pas un problème physique?
Ah, mais ça, j'en sais rien. Là, Jean-Louis, tu vas trop loin, là, maintenant.
Il a changé de chaussure. Les gars, juste pour terminer sur le cas Mbappé,
c'est important le strap.
J'ai lu, je n'ai pas. Oui, c'est très
important.
J'ai lu que Mbappé ne s'exprimait pas. Et on a en fait tout un plat.
Début de la
on
coupe
se
du monde.
Pose des questions, mais pourquoi
ça veut dire qu'il a un problème physique, tu penses?
Il nous cache quelque chose.
Ah oui.
C'est quand même extraordinaire. Enfin, je n'arrive plus à m'y faire, hein, moi, véritablement. Parce que tous ramènent leurs fraises ou tous parlent au. Oh, il n'a pas envie
pas
de,
bien
parler,
de parler de Daniel Riolo comme ça.
Mais arrête, voilà, toi, arrête de donner des noms comme ça. Bon, alors, il n'y a pas d'histoire. Tout va bien. Mbappé, il sera là demain face à la Tunisie et on sera là pour suivre cette rencontre.
Non, on
merci
pas
Loïc.
Tout va mal. On n'a pas. Oui, tout va mal. C'est...
Bonne soirée, les gars.
Il y a plein d'histoires. Non, tout va
bien. Salut Loïc.
Merci Loïc. Merci Loïc.
Et demain, donc, le match en intégralité.
On revient sur l'équipe du strap quand même. Il faudra qu'on fasse un thème là-dessus. Pourquoi il a un strap?
Ça, c'est vous, les anciens joueurs, à vous de me dire. Grave, pas grave, 32-16.
À mon avis, c'est grave.
Mais dis pas des trucs comme ça, étant très sérieux.
Non, et dans quel sens il était le strap? Dans quel sens il était?
Il y a des sens.
On peut pas avoir soit
Cyril, bah oui, soit c'est, le docteur Legal pour ce soit nous éclaire ton ligament interne, ton ligament externe, tu as un sens pour te strapper. Oui, c'est sûr. Tu as un sens.
Ah ouais, d'accord. Ben oui, ah non, ben j'apprends moi à votre contact. Je mets jamais de strap.
T'as le LLE, le LLI, voilà, oui.
Le LLE.
Il faut enquêter. Enquêtons. Inquiétant, oui.
Ouais, bien, tu me montreras comment on met un strap. L'équipe de France, on y revient dans une seconde. On fait entrer l'accusé. L'accusé, il est à côté de moi.
Mais non.
Il a un t-shirt violet.
Comment je peux être accusé? C'est mon émission.
Bah, tu es accusé, Jérôme. Non. C'est comme ça. C'est Roten sans flamme. C'est toi qui vas l'accuser, Jean-Michel.
C'est pas
accusé foot, d'aller trop loin sur Antoine Griezmann. Tu pourras te défendre, Jérôme, parce qu'il y aura un avocat, évidemment. Dans une seconde, on fait entrer l'accusé dans Roten sans flamme. Restez avec nous.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h29 sur RMC à Paris, 20h29 à Doha. Restez bien avec nous, on est dans Roten sans flamme. Et oui, c'est le retour de Roten sans flamme, hein. Roten sans flamme classique, 2 heures d'émission. On se régale, on passe un bon moment avec Jean-Louis Tour, avec Mamadou Niang, avec Jean-Michel Larquet. Oui, dans 10 minutes, c'est le moment de Julien Cazard, 18h45 précisément, avec son Cazard enchaîné. Oui, continuez à nous écouter, on est là. Et puis après 19h, on sera encore là, encore une heure. Ça va être fantastique, on va parler de l'équipe de France. Ça a commencé maintenant, Jean-Louis.
Et oui, exactement, on y va tout de suite sur Griezmann.
RMC, Roten sans flamme.
C'était impardonnable, c'était pas le mot. Hein. C'était indéfendable. Qui n'est pas indéfendable.
Faites entrer l'accusé.
C'est le retour de Faites entrer l'accusé. Et ce soir, Jérôme, c'est toi l'accusé.
Oh, j'ai peur.
Car on a l'impression que tu es un peu seul contre tous sur le dossier Antoine Griezmann depuis le début de la Coupe du Monde. Beaucoup saluent la façon dont il s'est réinventé avec l'aide de Didier Deschamps, ce positionnement plus bas au milieu de terrain dans ce fameux 4-3-3. Malgré cela, Jérôme, tu attends encore plus de lui pour faire la différence un peu plus haut sur le terrain et ne pas se contenter de quelques passes en étant décroché. C'est pour ça que tu es l'accusé du soir. Accusé d'aller trop loin. Par le procureur Captain Larquet. Bonsoir, monsieur le procureur.
Bonsoir, messieurs, bonsoir.
Jérôme, tu seras défendu par l'avocat, maître Jérôme Roten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
On n'est jamais mieux servi par soi-même.
Bien sûr.
Le juge Mamadou Niang est là pour trancher. Bonsoir, monsieur le juge.
Bonsoir à tous.
Excellent.
Alors, monsieur le procureur Larquet, qu'est-ce que vous reprochez à Jérôme?
Ah ben, Jérôme est jeune, Jérôme est fougueux. Monsieur Roten, oui. Maître Roten, je ne sais plus comment il faut l'appeler d'ailleurs, parce qu'il cumule, mais c'est un cumulard. C'est un cumulard.
Oui.
C'est un impatient exigeant. Impatient exigeant parce que, avant cette Coupe du Monde, il a quand même eu dans le viseur Antoine Griezmann. À juste titre d'ailleurs, juste titre, parce que ce que faisait Antoine Griezmann en équipe de France, c'était pas satisfaisant. Au-delà de tous les problèmes tactiques, techniques, émotionnels, psychologiques qu'il pouvait avoir, ce garçon, ça n'était pas suffisant. Mais depuis le début de la Coupe du Monde, et parce qu'il y a eu une révolution dans la tête du sélectionneur, la révolution, c'est que désormais, on joue pas avec 4 attaquants, comme je l'entends souvent dire, mais je sais pas, je dois mal compter, je dois plus savoir compter jusqu'à 3 et 4. On joue avec 3 véritables attaquants. Et Antoine Griezmann est dans un rôle de milieu de terrain. Milieu de terrain, normalement, offensif. Et milieu de terrain, comme l'aiment certains, si Maître Roten est impatient et exigeant, moi je serais plutôt de nature nostalgique. Oui, j'aime les milieux de terrain offensifs, et l'équipe de France nous en a donné, comme Platini, comme Zidane, ou les milieux de terrain offensifs de renommée mondiale, comme Maradona. Comme Maradona. Oui, mais moi, je ne m'appelle pas Jérôme Roten et je n'ai pas un égo surdimensionné. Enfin, bon, ça, c'était une parenthèse. Je dis simplement qu'il est impatient et exigeant parce que la mutation et la renaissance et la résurrection de Griezmann, elle ne peut pas être comme ça, donc total, d'un goût de baguette magique. Ce qu'il fait depuis le début de la Coupe du Monde est bien, voire même très bien. Mais je comprends qu'il soit aussi, Griezmann, tributaire un tout petit peu de ses partenaires. Et qui aurait pu imaginer, il y a 6 mois ou 8 mois, que le milieu de terrain serait composé de Griezmann, Rabiot et Tchouaméni? Qui aurait parié ça? Personne. Personne. On attendait encore, on espérait
là,
encore.
Là, tu accuses Jérôme ou tu lui trouves des circonstances atténuantes?
Je trouve qu'il est exigeant. Et aujourd'hui, je trouve que Griezmann a des circonstances atténuantes pour atteindre le niveau idéal que l'on souhaite, même si l'idéal n'est pas de ce monde. Et je demande à Maître Roten d'être patient, de savoir que de temps en temps Griezmann fait un peu jouer un peu le rôle d'un milieu de terrain défaillant comme Tchouaméni. Je suis sûr que s'il y avait Pogba à la place de Tchouaméni, Griezmann serait encore meilleur, le Pogba de 2018, okay. Bien sûr.
Donc il faut être un peu plus tolérant avec Griezmann,
Jérôme, toi qui es un garçon quand même extrêmement tolérant.
Oui.
Surtout avec les autres. Surtout avec toi. Je te demande simplement d'être patient et dans petit à petit, Griezmann va s'améliorer et petit à petit, Griezmann se rapproche de ce que tu souhaites de tout ton cœur et que nous souhaitons de tout notre cœur, c'est-à-dire revoir Griezmann très bon et décisif.
Alors Jérôme, il faut être patient.
Oui, alors moi je réponds déjà sur l'exigence. J'ai été accusé aussi d'être très exigeant. C'est vrai, je le reconnais, mais déjà je suis dans la vie sur moi très exigeant, donc forcément je peux l'être sur les autres. Je sais me remettre en question. J'ai toujours fait tout au long de ma carrière, et ma carrière n'a pas atteint les sommets de Antoine Griezmann. Donc automatiquement, il faut aussi remettre le curseur là où il a le mérite d'être mis. Pour un joueur comme Antoine Griezmann. Antoine Griezmann est un grand joueur. Il l'a montré, il n'a pas attendu que Jérôme Rotten le critique depuis maintenant un peu plus de 2 ans pour montrer à tout le monde avant que ça a été un grand joueur. Ça a été un très très grand joueur. Il n'était même pas loin du Ballon d'Or au bout moment qu'il aurait peut-être mérité. Donc, étant donné qu'on le place dans la catégorie des grands joueurs, pour moi, un grand joueur doit être un leader déjà avant tout technique de l'équipe de France. Mmh. Et mes critiques, bien sûr que mes critiques, elles sont pas sur ce qu'il fait depuis 2 matchs. Depuis 2 matchs, il fait des choses intéressantes. J'attends encore mieux, parce que pour moi, Antoine Griezmann peut faire mieux. Peut faire mieux dans ce rôle de milieu de terrain que je connais assez bien quand même. Pas de deuxième attaquant ou d'attaquant, comme il a été placé très souvent, très haut sur les dernières années, mais dans ce rôle de milieu de terrain. J'attendais ça, qu'enfin on situe Antoine Griezmann, que le sélectionneur le mette dans cette position-là, et pas nous dise je joue avec 2 attaquants, du moins un attaquant plus un joueur en soutien qui est Antoine Griezmann, parce que là c'est nous prendre pour des cons au d'un moment. On sait analyser le football, on sait qu'Antoine Griezmann n'est plus dans cette situation-là. Donc tu le juges comme milieu de terrain. Mais qu'est-ce que c'est un milieu de terrain ? Aujourd'hui c'est beaucoup de volume, il l'a, il court pour l'équipe de France, il court beaucoup plus qu'avant. Intelligemment, il récupère des ballons, et je l'ai souvent dit. Après, c'est un petit peu au détriment de son importance dans le jeu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette équipe, elle est tournée un peu plus sur l'offensive, et que depuis 2 matchs, on a revu un Antoine Griezmann qui est intéressant au départ des actions, pour faire le relais entre le milieu et l'attaque. Et ça, moi, j'aime ça. À l'image de sa passe décisive sur le but de Mbappé, où il est très haut. Mais pour moi, c'est pas suffisant encore sur 2 matchs. Il doit le faire 3-4 fois par mi-temps. Il en est capable.
Toi, Jérôme, quand t'as reculé en fin de carrière,
mais
sur le terrain,
mais moi,
on attendait du coup moins de passes décisives.
Non, quoi, parce que ça, doit, ça, tu l'as ou tu l'as pas. Son rôle de buteur,
ouais,
ça a été un attaquant. Il a fait tourner le compteur. Ouais. Quand je le place parmi les meilleurs joueurs du monde, automatiquement, regardez ses stats, il mettait 20, 25, 30 buts par saison. C'est incroyable. Et j'aurais aimé être un joueur comme ça. Aujourd'hui, Antoine Griezmann, je vais juste parler en sélection, à part... Je vais même pas compter les 2 premiers matchs de l'Euro. Avant l'Euro, ou avant la Coupe du Monde, où j'ai été très dur envers Antoine Griezmann, les 10 derniers matchs d'Antoine Griezmann, c'est un but, une passe décisive en équipe de France. Un but, une passe décisive depuis 10 matchs avant la Coupe du Monde. Donc excusez-moi d'avoir été très dur envers Antoine Griezmann, les stats sont là. Et pour aller dans le sens, dans mon sens, même le sélectionneur qui l'a toujours protégé, sortait systématiquement. Tu sais, vous savez quand même qu'avant la Coupe du Monde, Antoine Griezmann, il a pas fait un match complet. Il a toujours été sorti en cours de match. Ça veut dire que quand
mais
même,
il a toujours débuté les matchs.
Oui, mais pas toujours. Et Didier Deschamps, pas toujours. Il faut regarder les stats. Pas toujours.
En sélection, oui, mais pas en club.
Non, il a pas toujours débuté les matchs en sélection. Nkunku a joué une fois, alors pas beaucoup sur les 10 derniers matchs avant la Coupe du Monde. Oh, peut-être qu'il a été remplaçant 2 fois. Mais n'empêche qu'il a jamais joué 90 minutes. Donc, c'est que le sélectionneur estime qu'il est moins bien, il était moins performant. Aujourd'hui, c'est la dernière année, depuis le début de la Coupe du Monde. En effet, il est surprenant physiquement,
oui,
parce que avec le début de saison compliqué en club qu'il a encore, eh ben je trouve que physiquement il est très bien, et pour preuve il a joué des matchs complets. Que sur le premier match, il y a mieux à faire. Sur le deuxième, il s'est amélioré encore dans l'utilisation du ballon. Ouais. Je souhaite vraiment que sur le troisième et surtout sur les matchs de 8e de finale, il soit encore plus important pour l'équipe. Voilà, ce que je souhaite vraiment. Mais aujourd'hui, mes critiques, elles sont justifiées.
Mamad, monsieur le juge, est-ce que les critiques de Jérôme sont justifiées, ou est-ce qu'il faut se contenter de ce qu'on a et saluer la bonne Coupe du Monde de Griezmann ?
Après, c'est difficile de juger ça, parce que Jean-Michel, je suis en partie d'accord avec toi, mais tu trouves des circonstances atténuantes aussi à Jérôme, sur les critiques de Griezmann. Donc, j'allais plus dans le sens de Jérôme, même si il est beaucoup mieux sur les deux matchs qu'il a fait en Coupe du Monde. Il est dans un nouveau rôle, dans un nouveau registre, mais il apporte beaucoup d'activité au milieu de terrain. Il court beaucoup, il défend beaucoup, et voilà. Mais moi j'aurais aimé retrouver le Griezmann de 2018, et sur les 10 derniers matchs que qu'il a fait avec l'équipe de France, on l'a clairement vu qu'il était beaucoup moins bien, il était beaucoup moins décisif, il était beaucoup moins, il était peut-être moins bien aussi physiquement, parce qu'il jouait moins en club aussi, dû à son problème avec son contrat au Barça. Mais voilà, on a envie de retrouver le Griezmann qu'on a connu, qui peut apporter, on sait qu'il peut apporter beaucoup plus, même si c'est bien ce qu'il fait, on sait qu'il peut apporter beaucoup plus, et un Griezmann en forme, c'est un Griezmann qui peut amener l'équipe de France beaucoup plus loin.
Donc c'est une victoire de Jérôme, si je comprends.
Oh la main,
c'est victoire de Jérôme, parce que même Jean-Michel il a été en partie d'accord avec Jérôme.
Mais Jean-Michel, quand même, ça a été un très bon procureur. Oui, oui. Merci,
bravo.
Personnellement. Dans une seconde,
Monégo a pris un coup, et je vous l'ai dit tout de suite, Monégo a pris un coup.
Mais ta personne n'a d'ego. Ego, c'est moi dans les mots fléchés.
C'est moi dans les mots fléchés. Ouais. C'est égocentrique.
Allez, dans une seconde. Lui n'a pas d'ego. Ça, c'est vrai. C'est Julien Cazard. Ah oui. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h45 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. Et oui, on est là, on est bien en direct de Doha avec Jean-Louis Tour, avec Jean-Michel Larquet, avec Mamadou Niang aujourd'hui. Après 19h, Jean-Louis, on va faire encore des bons thèmes.
Ouais,
bons
exactement.
Thèmes. On va parler de la Belgique.
Oui, la France, la Belgique. Est-ce que, avec ces deux exemples opposés, l'ambiance est l'ingrédient le plus important pour aller loin en Coupe du Monde? L'ambiance dans un vestiaire. Et puis, on vous demandera dans le ring des supporters, est-ce que vous imaginez un PSG hors du Parc des Princes? Puisque Nasser Al-Khelaifi a déclaré à nos confrères de Marca qu'il ne se sentait plus le bienvenu au Parc des Princes. Le débat tout à l'heure, et puis on lancera évidemment les dernières rencontres de la journée avec Iran, États-Unis et Angleterre, Pays de Galles. C'est le dénouement du groupe B à partir de 20h. Mais tout de suite, c'est le moment de Julien.
RMC, Rotten sans flamme.
Le Casar enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, en préambule, je voudrais féliciter un homme qui est parmi vous. Hein. Alors, c'est pas Mamadou Niang, hein, parce que bon, il y est pour rien, hein, victoire du Sénégal. Pas plus qu'il n'y était pour grand chose.
Non,
la victoire contre la France.
Contre la France.
Tu sais très bien que celui qui a été le plus décisif, ça reste un peu Papa Badiop, beaucoup Franck Leboeuf. Qui vous a quand même laissé marquer, quand même sympa. Non, c'est mais si bien sûr, bravo, félicitations au Sénégal, mais surtout félicitations à un homme, un visionnaire, le visionnaire de l'émission, car il avait tout vu avant les autres. Et cet homme, c'est qui? C'est Jean-Louis Tour. Bravo Jean-Louis.
Bah écoute, moi je vais rajouter le but de Ronaldo, tout simplement. Voilà. But de Ronaldo, rien de plus.
Combien?
Premier buteur Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. La tête et le but. Bravo Jean-Louis. Bravo! Je sais que je me suis fait un max de thunes parce que je t'ai écouté, j'ai misé tout mon PEL sur Ronaldo, premier buteur. Attends, j'ai dit que. Qu'est-ce qui se passe? On me dit que j'ai pas écouté jusqu'au bout. Correction à l'instant même de la part de la FIFA. Le buteur s'appelle Bruno Fernandes, ce n'est pas Cristiano Ronaldo.
Non, c'était volé, ça va pas, on va pas en rester là.
C'est fait arnaquer là.
Ouais, non,
mais moi, il a dit qu'il l'avait touché, il a dit je l'ai touché. Autant il y a des mecs. Ils se sont battus pour dire j'ai pas touché.
J'ai touché.
Putain, c'est terrible, ils s'entendront jamais les mecs. J'ai pas touché, tu l'as bien connu, j'ai pas touché au Thomas. Eh oui, il l'avait touché ou pas?
Non, il l'avait pas touché. Il l'avait pas touché.
On embrasse tous les gens qui ont une Laguna diesel. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes.
Non.
Quoi, c'était pas une diesel? C'était une essence?
Bonsoir à tous.
Nous sommes le mardi 29 novembre 2022. Le Portugal est déjà qualifié dès le deuxième match. Une victoire maîtrisée contre l'Uruguay. Seul petit couac, c'est la blessure évidemment de Nuno Mendes qui est sorti à la mi-temps. Mais non, mais il est con lui ou quoi? Mais on te dit que non, c'est un joueur du PSG, c'est pas un joueur du Bayern. Après Neymar, c'est Nuno Mendes. Pendant ce temps-là, il y a pas un joueur du Bayern qui se blesse. Je me suis pas foutu la guigne avec cette histoire, Jean-Louis. J'ai l'impression que j'ai déconné. J'ai même appris que Mazraoui, il est revenu. Il est même plus blessé.
Oui.
Putain, heureusement Deschamps, il va faire tourner contre la Tunisie. Et Mbappé va pas prendre de risque. Ça va être cool.
Hein, en fait, il va jouer. Hein.
Comment ça?
Non, c'est pas vrai. Putain, il va quand même pas faire ça. Mais il va se faire découper par Montasar Taibi. Mais s'il va se faire faire les croisés contre le Costa Rica, il va buter contre Navas, qui va finir à l'hosto avec une commotion cérébrale. Il y a Sarabia qui va télescoper Soler pendant l'entraînement pour lui piquer sa place. Et ça va être une fracture du tibia. Faut revenir en équipe avec une équipe de Youth League en janvier contre le Bayern. Jean-Louis, toi t'as rien à foutre. On va être obligé de rapatrier Edouard Michu. Edouard Michu, Jérôme. Sommaire, je ne peux plus penser.
Il y a eu quand même une vraie belle journée de foot avec des matchs ouverts. C'était pas forcément le cas depuis le début, mais là il y avait des retournements de situation. Hier c'était beau début du jeu. Et on a vu, on savait plus où donner de la tête. Alors il y en avait pour qui c'était même compliqué à gérer. Par exemple, le match Ghana-Corée, il était assez simple. C'était cool. Le Ghana mène 2-0, la Corée revient à 2-2, puis 3-2. C'était ouf. Alors Lionel Charbonnier, lui, je sais pas s'il a vraiment vu le même match du Ghana que nous.
Dans le déroulement du match, c'est-à-dire que tu gagnes à zéro, ensuite tu te fais franchement foutre la tête sous l'eau en prenant tu perds 2-1 juste avant de rentrer dans les au vestiaire et puis après tu rentres sous le terrain et tu t'en prends un troisième. Enfin, tout était contre les Ghanéens et ils ont su vraiment très très bien réagir.
Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête?
Non mais je sais pas. Il a regardé quelle chaîne, Lionel. Parce qu'à quel moment ils ont été menés 3-1. Suis inquiété. Je suis très inquiet. Alors, il était pas. Après bon, c'est une analyse intéressante. Qu'est-ce qu'en a pensé Daniel? Il a eu son avis là-dessus.
C'était clair ce qu'a dit Lionel sur le déroulé du match. Parce que moi j'ai pas compris du tout.
Nous non plus. Moi je suis très inquiet. Non mais moi surtout je suis très inquiet parce que là pour l'instant il n'y avait qu'un match à la fois. Et là il y en a deux d'un coup à chaque fois. Donc là il y a eu Équateur Sénégal
dans ce genre de moment.
C'est le mec. Et franchement, franchement, si tu te noies, lui au moins, tu souffriras pas. Il te mettra la tête sous l'eau. Mais il y avait un beau Équateur Sénégal. Il y a un beau Iran États-Unis. J'ai hâte d'avoir le débrief de Lionel sur États-Unis Sénégal. On l'a dit, le Portugal a gagné tranquillement contre l'Uruguay grâce à un doublé de Bruno Fernandez. On est en droit de se demander si cette équipe ne serait pas plus forte sans Ronaldo. Et surtout qu'il y a un trio qui pourrait faire des malheurs. Franchement, s'il n'y a pas Ronaldo. Ça donnerait, tu donnes sa chance dans un 4-3-3. T'as Léao, João Félix et qui?
Bruno Fernandez.
Le troisième, le petit nouveau, la petite pépite, là, la promesse, là, le petit José. José, pas qui tu vas mettre. Enfin, le trio Léao, Félix et José, pas qui tu vas mettre. Putain, demande à Daniel.
Je suis convaincu que Léao, Jean-Félix et je sais pas qui tu veux mettre avec eux devant.
Je sais pas qui tu veux mettre. Homme numéro 10. Non, franchement, je sais pas qui c'est ce mec, ce José.
Sur le côté plutôt.
José, je sais pas qui tu veux mettre. Sur le côté, je sais pas qui tu veux mettre qui déborde. On a de voir Cristiano sortir avec ce je sais pas que tu vas mettre. C'est une vraie solution de rechange pour le Portugal. Franchement, il te propose des solutions, Daniel. Tu vois, il se fout de la gueule de Lionel, mais au moins lui, il amène quelque chose. Il propose un vrai gars sur le côté, José, pas que tu vas mettre. Je suis étonné que Luis Campos l'ait pas récupéré, celui-là. C'est bizarre pour le PSG. Il y avait la conf de presse de Didier Deschamps. Et on lui a parlé de la titularisation d'Mbappé, probable. C'est l'occasion de relancer le Qatar Comedy Club.
And now, ladies and gentlemen, le Qatar Comedy Club. Aujourd'hui, Dédé Ladèche.
Donc son physique, bon, il va très bien, pourquoi pas le ménager. Mais apparemment, le problème, ça serait son ego, puisque son ego voudrait qu'il joue. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce qu'il veut jouer? Kylian n'a pas d'ego.
Et franchement, ça déconne. C'est génial. C'est génial parce que tous les jours une bonne vanne. Pour finir, le Brésil s'en est sorti de manière poussive contre la Suisse. Et on sentait peser le poids de l'absence. L'absence d'un homme, c'est Neymar. C'est Neymar qui, en pleine rééducation, se prépare pour ses futures échéances. Et là, il faut savoir que le prince Altani est passé lui faire un petit coucou. Ah. Et oui, on avait nos micros.
Et salut Neymar, comment tu vas?
salle des princes. Et je voulais prendre un peu de tes nouvelles et savoir comment ça va la cheville. À la cheville gauche, ça va super. Yeah, c'est une bonne nouvelle, ça. T'es plus blessé. Ah ben si, cheville droite, c'est là que blessé Neymar. Ah ouais, merde. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il te remette bien pour le vrai objectif, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, Neymar comprend. C'est pas demi-finale, quart de finale, la finale. Non, le vrai objectif qu'on a en février, si tu vois ce que je veux dire. Ah, Neymar comprend. Pas que Neymar, elle a compris. Février objectif, elle sera prêt Neymar. Elle sera prêt. Et c'est bien, ça t'a compris. Eh ouais, 5 février, anniversaire du Neymar. 5 février, ça va être la fête du Neymar. La fête, je la fête, c'est la fête du Neymar.
Il est vraiment tébé, hein.
Eh ouais, et pas tébé Neymar. C'est la fête, cloche piada sur un pied. C'est la fête du Neymar.
On est rassuré. On est rassuré. Il sera prêt en février.
Qu'est-ce que tu lui mets? Mais qu'est-ce que tu lui mets?
Bah, alors, non, mais ne rigolez pas. Neymar, il est en pleine forme. Et je voudrais finir avec un hommage à Neymar. Tout rapide, c'est se rappeler que même sur un pied, lui, il sait danser. Car il est magique.
Oui, c'est comme ça. C'est la cloche piada. Même s'il ne te reste qu'un pied, ben tu peux toujours danser. Oui, c'est comme ça. C'est la cloche piada. Oui, c'est la fête du Brasil, cinéma, c'est la cloche piada. Oui, du Brasil.
Ça donne envie de la danser, putain. Moi, je vais la danser, la cloche piada.
C'est magnifique.
Alors, on peut la lancer, cette danse. Ah ouais, peut-être demain, la version piada. Longue. La vraie version de la cloche piada.
Jérôme, parfois, il danse la cloche piada quand il est un peu fatigué, qu'il boite un peu.
Et depuis le temps qu'il marche. Et tu sais que je crois que statistiquement, après mes calculs, il a plus été sur un pied que sur deux. Depuis 5 ans, il a plus été sur un pied que sur deux. Donc, à mon avis, il maîtrise cette danse comme personne.
C'est le cas en ce moment, comme Jérôme.
Voilà, allez, allez voir les copines.
Le Casar enchaîné.
Alors Julien Casar qui est de retour désormais jusqu'à la fin de la Coupe du Monde tous les soirs 18h45 pour son Casar enchaîné. Et vous pouvez podcaster les Casars enchaînés de la semaine dernière, des semaines précédentes bien sûr, disponible dans le podcast de Roten sans flamme. Dans une seconde, l'ambiance dans un groupe, est-ce que c'est l'ingrédient fondamental pour aller loin en Coupe du Monde? On voit que c'est chaud chez les Belges, on vous racontera ça dans un instant. Et puis supporters parisiens, imaginez-vous votre club hors du Parc des Princes. Ce sera le débat dans le ring des supporters 32-16. On a des cadeaux à vous offrir également dans Roten sans flamme. On vous explique tout ça dans une seconde. Restez avec nous, à tout de suite.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.